France Culture.
Une histoire particulière. En 2018, Annie Latonne signe un ouvrage aux éditions Ampelos, Génération Rosa Parks, les militantes dans l'ombre de Martin Luther King. C'est un petit recueil qui regroupe 20 portraits de femmes de différents horizons. Diplômées ou non, professeures d'université, aristocrates abolitionnistes, femmes d'évêque ou cueilleuses de coton dans une plantation. Il relate des faits révoltants, des violences policières démesurées, au cours desquelles on n'hésite pas à passer à tabac des femmes et à les laisser pour mortes, comme l'histoire d'Amelia Boynton Robinson, retrouvée sur un pont de Selma, en Alabama. Ce week-end, c'est Nejma Bouakra et Véronique Lamondour qui vous racontent l'histoire d'une femme également originaire de l'Alabama, c'est Rosa Parks.
Been a bugle on night, been scorned.
Les gens disent toujours que je ne me suis pas levée parce que j'étais fatiguée. Mais ce n'est pas vrai.
Rosa Parks, pas celle que vous imaginez.
Je n'étais pas plus fatiguée que d'habitude après une journée de travail.
I was tired,
mais j'étais fatiguée de céder.
Of giving in.
La seule chose qu'on a en tête, souvent on pense à une vieille femme, alors que pas du tout. Quand elle a refusé de se lever, c'était une dame de 42 ans. Et justement, cet épisode du bus, c'est vraiment un tout petit épisode dans sa vie.
Oui, le fait de le représenter âgé, avec son petit sac, fait partie de la pacification, fait partie du fait de lui enlever sa dimension militante. Elle était non seulement pas âgée, mais elle était une militante de longue date. C'était quelqu'un d'extrêmement déterminé. Donc de la montrer âgée et de la faire en petite dame aussi, donc un peu sans danger, quoi, pas du tout menaçante, fait partie de ce récit qui va pouvoir la faire rentrer dans le récit blanc où quelques noirs peuvent être admis. Et ça fait partie de la question de l'âge, elle entre dans la catégorie des mamies, des mamas noires, de celles de... qu'on voit dans N'importe le vent, qui s'occupe des femmes blanches et de leurs enfants. Donc, de nouveau, celle qui nourrit, qui prend soin, donc finalement, dont la couleur noire pratiquement disparaîtrait.
Rosa Parks a été immortalisée dans des photos en noir et blanc. Sur celle-ci, publiée en première page du New York Times, on la voit en train de faire un relevé d'empreintes. Une Rosa Parks qui n'est que l'ombre d'elle-même, une proie. Et c'est ce même journal qui la dénommera quelques décades plus tard la matriarche accidentelle du mouvement des droits civiques. Ou celle-ci encore, Rosa Parks, est seule dans le bus, une image de reconstitution policière où ni blanc ni noir n'apparaissent autour d'elle. Isolée, une figure déjà abstraite, sans contexte, sans colère. Il existe une histoire mythifiée de Rosa Parks, quasi mensongère. Elle n'est pas humble, mais juste pauvre. Ce n'est pas une star. Elle sera oubliée pendant de longues années. Âgée dans les années 90, elle est agressée chez elle par un cambrioleur. Il ne trouvera que $50 à emporter. En juillet 1960, le magazine Jet, le plus lu parmi le lectorat africain-américain, révèle qu'elle est couverte de dettes, souffrant d'ulcères à l'estomac et d'une tumeur à la gorge, coincée dans deux pièces avec son mari et sa mère. Loin des Sunlight, Rosa Parks est une militante. Dès 1940, elle s'implique dans la NAACP, une association militant pour les droits civiques et la promotion des Noirs. Elle a ouvert la voie à un changement historique et ses écrits personnels sauvés in extremis en témoignent. Elle a documenté toute sa vie, celle des Noirs américains. Non, elle n'est pas devenue, accidentellement, Rosa Parks.
Bien d'autres femmes ont désobéi avant elle. Déjà, à la fin du 19e siècle, en 1884, Ida Wells. C'était une journaliste nord-américaine qui a désobéi elle aussi et qui a refusé de laisser son siège dans un train, dans un compartiment réservé aux Blancs.
Pasteur Annie Latton.
Et dans ce train, le contrôleur lui a dit « Mais vous êtes dans un wagon qui est réservé aux Blancs. Il faut aller vous mettre dans le wagon des fumeurs. Il n'y a que là que les Nord-Américains ont le droit d'être. » Donc elle a refusé. Le contrôleur a fait appeler la police qui est venue. Et c'était une femme de tête. Et elle a mordu la main du contrôleur, elle s'est débattue, elle a refusé de se laisser faire. Bon, on l'a fait descendre du train manu militari. Et ensuite, elle a intenté un procès, elle a fait une action en justice, justement, pour faire valoir ses droits.
Pensez-vous que Rosa Parks ait eu connaissance des actions et des écrits d'Ida B. Wells?
Alors ça, je ne sais pas si elle a eu connaissance de cela, mais elle savait que d'autres femmes avaient fait des actions de ce genre dans le passé, sans toujours savoir exactement quels étaient leurs noms, mais elle savait qu'il y avait toute une lignée, une longue lignée avant elle, de femmes qui avaient désobéi.
Certes, la corde du lynchage m'a été épargnée et je n'ai jamais eu le corps criblé de balles ou traîné derrière une auto, mais j'ai souvent ressenti que c'était mon esprit qu'on lynchait. J'ai grandi dans un monde où le pouvoir blanc était surtout utilisé avec cruauté et ingéniosité pour réprimer de pauvres noirs sans défense.
Vous pouvez peut-être rappeler le contexte, mais une période où il y a ce que l'écrivain Du Bois nomme l'industrie du lynchage, c'est-à-dire on a peur à chaque coin de rue lorsque l'on est noir.
Oui, et puis surtout quand on est une femme, hein, parce que les femmes, si elles ne baissent pas les yeux lorsqu'elles croisent un homme blanc, par exemple, elles peuvent très bien être violées, être lynchées. Elles doivent vraiment rester très, très sur leur garde tout le temps, rester dans l'ombre, traverser la rue s'il y a un blanc ou une blanche qui est sur le même trottoir qu'elles. C'est vraiment une situation extrêmement compliquée pour les Noirs américains de l'époque, Africains-américains on dit maintenant, hein, et il faut vraiment qu'ils soient toujours sur leur garde.
Il ne faut pas sous-estimer que le fait que le racisme n'est pas que concret et dans le monde matériel, il est aussi profondément des blessures psychiques. C'est de dire à des enfants noirs, des petites filles et des petits garçons, votre éducation, votre vie ne compte pas. Votre vie n'a pas de valeur.
Françoise Vergès.
Donc non seulement vous n'aurez pas accès à l'école, mais même votre histoire, votre culture, votre monde n'entrera pas non plus à l'école. C'est vraiment central, cette question d'éducation. Vous êtes enfant, déjà on vous dit pratiquement tous les jours, ta vie ne vaut rien, concrètement, c'est-à-dire qu'ils peuvent être lynchés, accusés à tort, mis en prison, enfin c'est absolument, donc toutes les vies noires ne valent rien. C'est ça qui est le message qui est donné par le régime de suprématie blanche.
Des écoles non chauffées, pas de bus scolaires pour se rendre à l'école.
Et c'est ça aussi qui choquait Rosa Parks, bon, que choquait beaucoup d'autres, hein, mais qui choquait Rosa Parks, c'est quand elle allait à l'école, de voir le bus scolaire qui passait, qui n'était pas toujours plein, mais qui ne s'arrêtait jamais, pour les enfants noirs qui marchaient pour aller à l'école, par tous les temps, par tous les temps.
Quand elle est petite fille, qu'elle vit avec ses grands-parents, donc il y a une grande flambée de violence là, des années 30 en particulier. On a des grandes descentes du Ku Klux Klan dans les villes et les quartiers noirs, et dans les zones rurales et périrurales. Elle raconte comment son grand-père monte la garde devant la maison, le fusil à la main, en disant bah, « s'ils viennent nous tuer, au moins j'essaye d'en tuer un ».
Julien Bordier.
Voilà, elle raconte ça, et ça on sent que c'est quelque chose qui nourrit son expérience et son envie de résister.
Je crois que sur ce... Elle raconte aussi cette histoire qu'ils avaient pour habitude de dormir tout habillés, au cas où, en fait, au cas où il faille partir très rapidement. Lincoln said the Negro free. Why is he still in slavery?
why is he still in slavery? It's Jim Crow.
Rosa Parks vit sur la corde raide des lois dites Jim Crow. Sur son chemin d'écolière se trouvent des fontaines pour les blancs et des fontaines pour les noirs, avec de petits écriteaux, et la petite fille pense que l'eau n'a pas le même goût. Dans le sud des États-Unis d'Amérique, blancs et noirs vivent séparément jusqu'aux bancs publics, jusqu'aux tramways. En 1942, la Croix-Rouge distingue encore le sang noir du sang blanc. Un patient ne peut recevoir que le sang d'une personne de son groupe racial. Ainsi, après l'abolition de l'esclavage, les suprémacistes blancs organisent la ségrégation raciale et l'exclusion politique des Noirs, en profitant de l'arrêt de la Cour suprême, Plessy contre Ferguson de 1896, déclarant que la ségrégation est constitutionnelle si des conditions égales sont offertes à chaque race. Un maquis juridique inextricable se met en place pour que de l'égalité, les Noirs n'en voient que la queue de la comète. We call on. Impossibilité matérielle de voter, inégalité scolaire, tracasserie sans fin. Selon la formule de l'historien Comer Van Woodward, ces lois accordent à la violence raciale la majesté de la loi. En réalité, les propriétaires blancs ont peur. La main-d'œuvre pourrait se rebeller. De plus, une petite bourgeoisie noire s'est constituée. Les anciens esclaves exploitent de petits lopins de terre et le mouvement de la Harlem Renaissance fait des émules. Les blancs se vengent, terrorisent, et face à la violence et au massacre, quitter le Sud devient le mot d'ordre de centaines de milliers de Noirs américains. C'est la grande migration. Seulement le Nord ne les attend pas joyeusement. Face à eux, le mur de la défiance de la société blanche. L'affaire des Scotteroe Boys éclate à bord d'un train en 1931.
She gets her start as an activist, as an adult.
Elle a commencé à devenir une activiste politique adulte quand elle a rencontré Raymond Parks, son futur compagnon.
Jeanne Théo Harris.
Il travaillait sur le cas des Scotteroe Boys.
L'affaire des Scotteroe Boys éclate. Il est question d'hommes qui migrent, qui vont chercher du travail, qui se déplacent librement. Et elle marque profondément Rosa Parks. Pourquoi ?
Oui, c'était des adolescents, des jeunes, très jeunes, qui ont pris le train et qui ont été accusés faussement d'avoir agressé deux jeunes femmes blanches. Ils ont été mis en prison alors qu'il n'y avait pas de preuves. On a découvert par la suite que c'était, ils ont été faussement accusés, mais ils ont passé quand même 20 ans en prison.
The Scottsboro case was a case of nine young black men ages 12
to 19. Le cas Scotteroe Boys, ce sont 9 jeunes hommes qui ont risqué dans le train, comme de nombreuses personnes. À l'époque de la Grande Dépression, tout le monde montait dans le train sans billet. Une bagarre a éclaté avec des jeunes hommes blancs qui tentaient de les mettre dehors. Et la police les a arrêtés à la station suivante. Mais la charge contre eux a changé d'objet. Ils sont alors accusés d'avoir violé deux femmes blanches. En Alabama, en 1931, un mouvement politique s'est amplifié pour soutenir ces jeunes hommes. Et l'un des activistes qui s'occupe de cette affaire est Raymond Parks.
Tout le monde parmi les Africains-Américains savait, enfin, se doutait que c'était une fausse accusation.
Ce qui est terrible, c'est que ce sont de simples travailleurs blancs, on dit même des vagabonds, des hobos en américain, qui vont chercher du travail et qui tentent d'expulser des Noirs américains du train.
Oui, mais de toute façon, ce qu'on a toujours vu, c'est qu'il y avait quand même une jalousie, d'une certaine manière, de la part des pauvres blancs qui voyaient certains Noirs, soit qui réussissaient, soit qui avaient de la patience qui était suffisamment battant pour pouvoir essayer de trouver n'importe quel travail, n'importe où, se déplacer à l'autre bout du pays pour trouver un travail. Et il y avait cette jalousie. On voit ça encore maintenant aux États-Unis, dans des régions très profondes, du sud profond, où il y a cette rivalité d'une certaine manière du pauvre blanc qui ne supporte pas que les noirs puissent mieux réussir qu'eux.
Vous l'avez observé, Daniel Hatton ?
Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Hein. On voit ça, c'est viscéral. En fait, c'est viscéral.
Il y a un moment donné, on peut dire qu'un événement va concentrer, va exemplifier toutes les injustices qui se sont passées depuis longtemps. La question des hommes, cette accusation constante de viol des femmes blanches, qui reposait justement sur cette peur absolue de la masculinité noire, les inégalités sociales, la question du travail qui est impossible pour les jeunes qui doivent partir chaque fois aller chercher du travail, les ségrégations dans les trains, tout ça concentre plusieurs choses et donc ça va vraiment là représenter profondément tout ce qui est le régime de suprématie blanche. Et donc ça va marquer beaucoup les communautés noires par son exemplarité.
Ce qui est arrivé avec les Scottsboro Boys, c'est que les activistes locaux et le Parti communiste américain, à travers leur aile légale, ont pris la défense de ces jeunes gens. Beaucoup de gens se sont tenus à l'écart de ces affaires, car ils craignaient qu'elles ne ternissent ou ne donnent pas une bonne image d'eux.
Rosa Parks a fréquenté des syndicats noirs américains, des écoles également, des écoles militantes, avec Septima Clark. C'est toute une partie de l'histoire de Rosa Parks qu'on connaît beaucoup moins.
Je crois que de manière générale, c'est une partie de l'histoire des États-Unis qu'on ne connaît pas. Et peut-être que même les Américains ont du mal à assimiler aujourd'hui, ce qu'il faut bien réaliser hein, quand même, tout le mouvement dès la fin des années 50 pour discréditer tout le mouvement socialiste américain. Donc on voit bien ce qu'est le McCarthyisme. Et en effet, il y a cet élément très intéressant qu'on découvre. Rosa Parks est envoyée fréquenter une école qui s'appelle la Highlander Folk School, donc une école du peuple, qui avait été inventée par un homme qui s'appelait Miles Horton, si je ne me trompe pas, et qui lui-même venait du syndicalisme révolutionnaire américain. Ce qui est très très intéressant, c'est qu'on voit que les luttes sociales, elles laissent des traces et que les unes nourrissent les autres. Quoi. Et en effet, à un moment, Rosa Parks est envoyée dans une école pour activistes où on leur apprend les techniques de boycott, comment on fait pour marquer l'opinion publique, etc. etc.
When she goes to Highlander, the workshop she attends is by...
Quand elle va à Highlander, elle suit l'atelier de Septima Clark. C'est un professeur qui enseigne depuis 40 ans dans le sud de la Caroline, qui s'est fait virer car elle a refusé d'abandonner son adhésion à la NAACP. Et donc, elle organise l'atelier que suit Rosa Parks. Elle la remobilise et l'inspire. Car en 1955, Rosa se sent épuisée et nerveuse, tandis que Clarks semble si forte et persévérante. Ainsi, Clarks est devenu un modèle pour Parks.
À la fin de la session à Highlander, la question qui avait été posée à Rosa Parks et aux autres stagiaires, c'était « Et maintenant, qu'est-ce que vous allez faire après ce stage ?» Et ça lui tournait dans l'esprit, et elle savait qu'elle allait faire quelque chose, mais quand, elle ne savait pas. Ce 1er décembre 1955, quand elle monte dans le bus, elle ne sait pas encore qu'elle... Elle est fatiguée, mais pas plus que les autres jours. Elle ne sait pas encore qu'elle va agir.
Je n'avais pas prévu que ce serait moi qui serais sous les projecteurs du fait d'un incident ou d'une action.
Mais en montant dans le bus, elle s'aperçoit que le conducteur est le même conducteur qui, 12 ans avant... l'a déjà sortie du bus Manu Militari et donc déjà elle a une mauvaise impression. Donc elle s'assied dans la partie qui est réservée aux Noirs, dans la partie arrière du bus, et quand un homme blanc arrive, le conducteur ordonne aux Noirs qui sont dans cette rangée de se déplacer, de laisser la place à l'homme blanc. Bon, c'est un homme, Rosa est une femme, c'est un blanc, elle est noire. Et là, elle se dit, non, maintenant, ça y est. Maintenant, il faut agir. Et elle refuse. Elle refuse. Les autres se lèvent. Parce que, à l'époque, l'homme blanc ne veut pas seulement une place, mais il faut que toute la rangée soit libérée, parce qu'il est hors de question d'être assis à côté d'un noir ou d'une noire. Et donc, il faut que toute la rangée soit libérée. Et Rosa refuse. Start right
now, babe. Est-ce que l'acte de Rosa Parks est prémédité ou non dans le bus?
Je pense pas, en fait. Tous les jours, hop, on lui demande de se lever, d'aller au fond. Voilà, dès qu'il n'y a plus assez de place, on leur demandait d'aller se mettre au fond pour libérer leur place pour les Blancs. Et donc, c'est quand même une accumulation de voir autant de gens courber la tête tous les jours après le boulot et qu'un jour, en fait, c'est stop. C'est stop, j'en peux plus, je me lève pas. Voilà.
Bah, c'est une question intéressante parce que c'est quelque chose qui a été beaucoup pour discréditer le mouvement qui lui a été reproché. Et ce qu'elle explique, encore une fois, avec beaucoup de simplicité et beaucoup de naturel, c'est que la NAACP de Montgomery cherchait à monter une class action, donc un recours collectif, hein, on ne va pas rentrer dans les détails de la justice américaine, mais en gros, l'idée était de trouver un cas de quelqu'un qui se ferait arrêter dans un bus pour attaquer l'État au niveau fédéral et rendre illégale la ségrégation dans les transports en commun. Ce qui était d'ailleurs une revendication extrêmement légère. Hein. C'est juste l'abolition de la ségrégation dans les transports en commun. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire, quoi. Légère, c'est au fond, par rapport à l'ensemble des lois Jim Crow, il s'attaquait juste à une partie du problème, quoi. Et donc Rosa Parks explique bien, elle explique que d'ailleurs il y a eu plusieurs cas avant elle, de personnes qui ont été arrêtées dans les bus, que pourquoi c'était peut-être pas les meilleurs candidats pour essayer de monter cette grande action judiciaire et aussi médiatique. En fait, c'est ça le truc, il y a une stratégie politique très claire, qui est préméditée. Mais elle-même, elle dit, le moment où je refuse de céder ma place, j'ai pas du tout en tête que ça va être moi, en fait, qui vais servir la class action, que je serai la figure de ce recours en justice, quoi.
Ne prenez pas le bus pour aller au travail, en ville, à l'école ou ailleurs, le lundi 5 décembre. Ne prenez pas le bus pour... Une femme noire a encore été arrêtée et jetée en prison pour avoir refusé de laisser sa place. Une femme noire a encore été arrêtée et jetée en prison. Lundi, ne prenez pas le bus pour aller au travail, en ville, à l'école ou ailleurs. Lundi. Si vous travaillez, prenez un taxi, partagez une voiture ou marchez. Si vous travaillez. Venez au grand meeting qui se tiendra lundi à 19h à la Old Street Baptist Church pour plus d'informations.
Rosa Parks est arrêtée. Elle risque la prison. Elle se sait en danger. Elle reçoit des menaces de mort du Ku Klux Klan. Tandis que des adhésions aux Ligues Blanches, The White Citizens, progressent dans la ville contre les négros radicaux. Le maire de Montgomery affiche fièrement son adhésion en public à cette organisation. Rosa appelle Joanne Robinson, qui convoque le Conseil politique des femmes. Rosa sait que c'est le collectif le plus réactif de Montgomery. Et Joanne Robinson est aussi une militante aguerrie.
Joanne Gibson Robinson a passé toute une nuit à renéotyper des tracts. Et en tout, il y avait à peu près 50 000 tracts qui ont été distribués au petit matin par le Conseil politique des femmes et les étudiants de Joanne Gibson Robinson, parce qu'elle était professeure d'université, et appelant donc les Noirs américains à se mobiliser et à commencer un boycott.
Mais des avocats blancs ressortent une loi interdisant le boycott. Seulement une brèche est ouverte et Rosa met en cause la légitimité constitutionnelle des lois ségrégationnistes.
My feet were tired, mes pieds étaient fatigués, mais mon cœur revenait à la vie.
That was quite a slogan at the time.
C'était un sacré slogan pour l'époque.
The people kept their spirits up with the religious singing and listening to speeches from Dr. King.
Les gens se donnaient du courage en chantant et en écoutant des discours du pasteur King. Et bon, il y avait une telle éloquence autour de Montgomery à l'époque.
Alors, quand Rosa Parks a été arrêtée, Edgar Nixon, qui était un syndicaliste, qui était une forte tête, qui parlait fort et qui savait se faire entendre, est intervenu tout de suite. Mais il savait qu'il ne pouvait pas intervenir seul, qu'il fallait absolument qu'il ait le soutien des leaders, des pasteurs noirs de la ville. Et donc, une réunion a été organisée le jour même de ces leaders. Et tous ces pasteurs étaient là plus ou moins timorés, un peu à se dire mais quels vont être les moyens de rétorsion qu'on va devoir subir, qu'est-ce qui va se passer si on intervient, etc. Et ils avaient vraiment peur Et alors Edgar Nixon qui est arrivé, qui les a enguirlandés comme c'est pas possible, en disant mais vous êtes des peureux, vous êtes des lâches, cette femme a été arrêtée, vous n'allez rien faire, vous n'allez même pas la soutenir. Et alors est entré en retard à la réunion un petit jeune dernier arrivé dans la ville qui s'appelait Martin Luther King et qui avait à peine 27 ans et qui est arrivé puis qui dit « Nous ne sommes pas des lâches, moi je suis pas lâche ».
Le boycott dure 381 jours sur l'estrade le pasteur King et Rosa Parks qui sera surnommée la Madone de Montgomery. Elle est silencieuse.
On le sait, très peu de femmes ont parlé pendant toutes ces années. Sans les femmes, pas de Martin Luther King. Il n'y en aurait pas eu. Enfin, il y aurait peut-être un homme, bien sûr, qui se serait distingué, mais il n'y aurait pas eu ce mouvement.
On voyait que ces femmes, lorsqu'il y avait des réunions d'organisation, des manifestations, et que, par exemple, Sertie McClark était là, il y avait Abernathy qui était là et qui disait « Mais que fait Sertie McClark dans cette réunion d'organisation ? Elle n'a aucune place ici. Mais qu'est-ce qu'elle fait là ?» Et c'est vrai que tous ces hommes étaient dans une culture tellement machiste qu'ils ne se rendaient même pas compte de l'importance du travail des femmes.
Alors que sans elles, on le sait, tous les mouvements, les marches, les boycotts, parce qu'on le sait, pour le boycott, c'était elle aussi qui était là pour organiser, comment s'organiser tous les jours quand même, le transport des personnes à leur lieu de travail, comment s'organiser, comment on allait nourrir les personnes, comment les familles, on allait soutenir les familles. C'était elle qui le faisait. C'était elle qui ont tenu ces 380 jours. Et évidemment, elles disparaissent.
Et pourtant, Rosa Parks ne s'est pas tue.
Aucune femme ne s'est tue. Aucune. C'est pas qu'elles se sont tues. Elles sont mises sous silence, c'est-à-dire que même quand elles parlent, leur parole n'est pas diffusée, leur parole n'est pas répercutée, leur parole n'est pas mise en avant. Donc, elles parlent et leurs paroles ne sont pas entendues.
Let's go to Odetta now on the stage.
Merci à Jeanne Théouaris, professeure émérite de sciences politiques à l'Université de Brooklyn et biographe de Rosa Parks, à Françoise Vergès, politologue et militante, à Aniel Hatton, pasteur, à Charlotte Dugrand, éditrice, et à Julien Bordier, traducteur. Avec les voix de Joël Marilly et Hélène Losseur. Prise de son, Laurent Lucas, Pierre Monteil, Valérie Lavalard, Bruno Mourlan. Mixage, Lidouine Caron. Rosa Parks, pas celle que vous imaginez. Un documentaire de Nejma Bouakra, réalisé par Véronique Lamondour. Coordination, Christine Bernard.